Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique, toulousaine et régionale que vous propose Radio Présence chaque semaine. Comme je vous le disais lors de l'émission précédente, c'est encore la saison des festivals en cette fin d'été, début d'automne. Notre numéro de rentrée était d'ailleurs entièrement dédié à la 45e édition de Piano Jacobin, dont le concert d'ouverture a eu lieu jeudi dernier au Cloître. Nous allons y revenir avec le plus fidèle, le plus assidu des chroniqueurs de Mélomanie, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et puis nous avons le privilège de recevoir encore cette semaine, non pas un, mais une invitée d'honneur, la violoniste Clara Tchernat, en compagnie de son mari, le pianiste et compositeur Thierry Huillet. Clara a pris la direction artistique d'un festival qui porte un drôle de nom, Petit Haricot. La première édition a lieu du 27 au 29 septembre à Saint-Pierre-de-Trivisy dans le Tarn. Nous allons vous en dire plus sur cet événement et sa programmation en seconde partie d'émission. Pour l'instant, place à l'actualité musicale récente avec notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et ce retour arrière nous ramène donc au festival Piano Jacobin, dont les premiers concerts de la 45e édition ont été donnés la semaine dernière. La soirée d'ouverture avait été confiée à Rachel Breen, que l'on découvrait à cette occasion, puisqu'elle ne s'était jamais produite à Toulouse jusqu'alors. Vous y étiez, Serge, et j'ai ouï dire que la jeune pianiste américaine a largement emporté l'adhésion du public. Très beau concert, je crois.
Ah oui, très beau concert, plein d'imagination, dans l'élaboration du programme en particulier. Donc je vais y venir. Mais il faut rappeler qu'elle a quand même été très marquée par l'enseignement du regretté Lars Vogt, qui est disparu il n'y a pas très longtemps. Hein. Et donc vraiment, elle conçoit des programmes extrêmement originaux. Et pour son premier récital toulousain, alors elle ouvre et referme sa prestation avec deux grandes sonates, parmi les plus emblématiques de leurs compositeurs, Mozart et Beethoven. Mais entre les deux, c'est là qu'il y a la partie la plus imaginative qu'on puisse imaginer. Commençons par la première œuvre qu'elle a abordée, c'était la sonate numéro 10 en do majeur, la Köchel 330, assez souvent jouée, de Mozart. Et là où elle a vraiment manifesté une sensibilité, d'autant plus remarquable qu'il n'y avait aucune affectation dans la manière dont elle phrasait l'œuvre de Mozart. Vraiment, ça a été un très beau moment, très léger au sens extérieur, mais d'une beauté, d'une finesse, d'une grâce vraiment remarquable. Et là a commencé le cœur de son récital. C'était vraiment incroyable. Elle a construit une trajectoire autour de l'art de Chopin. Donc il y avait quatre impromptus de Chopin et qu'elle a alterné avec des pièces de Luciano Berio, Modeste Moussorgski et Arnold Schoenberg. Alors quand on lit sur le programme cette succession, on se dit « il va y avoir des contrastes étonnants ». Eh bien pas du tout. Elle a choisi des œuvres de ses compositeurs récents, enfin on pourrait dire contemporains, en tout cas pour Berio et Schoenberg, mais des œuvres qui prolongent le style de Chopin et l'écriture de Chopin. On avait l'impression que c'était du Chopin tout le long. C'est vraiment incroyable. Et pourtant c'était des œuvres que pour ma part, j'avoue que je ne connaissais pas. Après l'impromptu numéro 1, donc de Chopin, elle a joué une courte pièce, toutes étaient de courtes pièces, hein, de Berio, qui est intitulée « Wasserklavier », piano do en quelque sorte. Et donc, vraiment, d'un style chopinien étonnant. Et puis ensuite, l'impromptu numéro 2 a été suivi d'un, là aussi, une découverte pour ma part, un impromptu passionné de Moussorgski. Eh ben, j'ignorais que Moussorgski avait composé un impromptu passionné, très bien, hein, qui s'enchaîne parfaitement avec les œuvres de Chopin. Et puis, il y a eu une autre pièce, rare et brève, avec un titre énigmatique de Schoenberg. Alors, le titre, je prends ma respiration, « Fragment eines Klavierstücks leicht mit einiger Unruhe rasch fast durchaus leise ».
Oui, il fallait prendre votre souffle.
Vous avez tout compris,
oui,
n'est-ce
oui,
pas
tout.
Voilà, et bien ça prolongeait, là aussi, l'harmonie de l'impromptu numéro 3. Mais il faut dire que les premières œuvres de Schoenberg sont très romantiques, hein, les toutes premières œuvres, hein, avant qu'il passe à la musique sérielle et atonale et dodécaphonique. Donc voilà, et ça s'est terminé par une dernière pièce de Chopin, la Fantaisie impromptue, opus 66. Et puis, pour conclure sa prestation, elle s'est arrêtée quelques minutes quand même, elle s'est carrément confrontée avec la dernière sonate de Beethoven, l'opus 111, la sonate numéro 32, qui a été, on peut le dire, consacrée par la formule de Thomas Mann, l'adieu à la sonate. Donc, elle a joué cet Everest du piano, on peut dire, mais alors où elle s'est impliquée complètement, avec un jeu particulièrement volontaire de ce premier de deux volets, il n'y a que deux mouvements, mais avec un deuxième mouvement tellement complexe et, je veux dire, déjà fragmenté, avec un maestoso, un allegro con brio ad appassionato. Bon, alors là, elle a déchaîné colère et tempête. Et dans le second mouvement, avec la fameuse arietta, là, elle est passée de la méditation de l'arietta à l'exubérance de ce fameux épisode qui, moi, me frappe chaque fois que j'écoute cette symphonie, un épisode jazzistique, complètement dans l'impression que c'est une prémonition de ce que sera le jazz plus tard. Donc, elle a reçu une ovation extraordinaire, avec des gens debout, vraiment, et elle a joué un bis. Alors, un bis, là aussi, on retourne aux sources, puisque le bis, c'était l'aria des variations Goldberg de Bach. Le retour aux sources, en quelque sorte. Et donc, ça a été vraiment une belle ouverture de ce festival qui, je dois le signaler, a été capté en direct par France Musique.
On pourra écouter ce concert.
Donc, on peut l'écouter en podcast, on peut encore écouter ce récital qui vraiment ouvrait bien le 45e festival piano jacobin.
Et c'était ça le comble.
Ah oui, absolument, complet.
Lors du concert d'ouverture de piano au Jacobin 2024, Rachel Breen a donc joué la sonate opus 11 de Beethoven, œuvre légendaire s'il en est pour tous les pianistes. On l'écoute dans une interprétation de la très belle arietta du deuxième mouvement. L'arietta, le deuxième mouvement de la sonate numéro 32 opus 11 de Beethoven, joué par Rachel Breen. La jeune pianiste américaine a donc donné le concert d'ouverture du 45e festival Piano Jacobin jeudi dernier, concert que l'on peut réécouter en replay sur le site de France Musique. Et le lendemain, le vendredi 6 septembre, nous avons eu le grand plaisir d'assister au concert de Philippe Bianconi dans un cloître de nouveau comble, alors que la pluie tombait en abondance ce soir-là. un signe du ciel, c'est le cas de le dire, puisque le programme du pianiste français avait pour fil rouge la thématique de l'eau, Serge.
Oui, absolument. Je crois que c'était un clin d'œil malicieux de la météo, ce soir-là, qui a officié et qui a vraiment soutenu, en quelque sorte, le pouvoir expressif du piano de Philippe Bianconi, qui, il faut le dire tout de suite, a fait des choses magnifiques ce soir-là. Oui. C'était vraiment éblouissant, on peut le dire, puisqu'il a commencé par des œuvres de Saint-Saëns. Alors Saint-Saëns, que l'on qualifie trop souvent d'académique, eh ben lui, il en fait un style, un jeu d'une finesse, d'une intelligence, d'un exotisme même par moment, puisqu'il a commencé par les cloches de Las Palmas.
Ça, c'était l'autre thématique d'Alain Lassaurie, il y avait les cloches.
Hein. Les cloches, cloches et eau.
Parce que ça s'est terminé par la vallée des cloches de Ravel, on va y revenir.
Exactement, hein, mais... oui. Et puis le souvenir d'Italie, là, l'opus 80, toujours de Saint-Saëns, qu'il a joué avec une effervescence vraiment irrésistible et un puissant lyrisme en même temps, très soutenu. Donc vraiment, très belle introduction, avec ensuite du Fauré, Fauré obligé, puisque nous fêtons le centenaire de sa disparition.
Et que c'était l'élève de Saint-Saëns.
Et voilà.
On va aussi en parler, parce qu'il y a une filiation tout au long de ce concert entre les compositeurs qui ont été joués.
Et les thèmes. Donc, la ballade opus 19, qu'il a joué, et d'ailleurs dédié à Camille Saint-Saëns, hein, de la part de Fauré. C'est une ballade qu'il orchestrera d'ailleurs plus tard. Hein. Et là, vraiment une intensité poétique déployée par l'interprète. Donc, c'était très, très beau, vraiment. Et puis, il a enchaîné sur deux partitions majeures de Franz Liszt pour compléter la première partie de ce concert. Les Jeux d'eau à la Villa d'Est, évidemment. Quatrième pièce de la troisième année de pèlerinage, c'est une sorte d'impressionnisme effervescent qu'il a habité là, hein, avec des arpèges et des accords qui suggèrent évidemment le ruissellement des fontaines et le scintillement de l'eau sous la lune, a-t-il précisé. Alors ça tombait bien, il y avait belle averse.
Nous on entendait le ruissellement qui tombait des gouttières du cloître.
Oui, du cloître, c'était vraiment impressionnant.
Presque un bruit de cascade qu'on avait en permanence.
Oui. Donc... on peut dire qu'il a fait exploser les limites un peu de l'instrument, comme s'il s'agissait d'en orchestrer l'écriture. Il faisait de l'orchestration au piano, c'est ça qui était vraiment impressionnant. Et puis ensuite, il y a eu Saint-François de Paule marchant sur les eaux, le second volet des légendes, avec la foi profonde du compositeur, évidemment. Et là, Bianconi a mis l'accent sur la ferveur sacrée de cette proclamation, en quelque sorte, vraiment très touchante. Donc c'était déjà une première partie formidable. Et toute la seconde partie a été consacrée à Maurice Ravel, dont Philippe Bianconi reste quand même un interprète de référence.
Oui, je rappelle son intégrale Ravel qui est parue l'an dernier sous le label La Dolce Vita, qui avait été salué par tous les critiques, à juste titre, à juste titre.
À juste titre, oui. Et là, il a commencé avec la lumineuse pièce des Jeux d'eau.
Oui, alors ça, c'était extraordinaire parce que donc il a repris, il y a une petite pause, il a repris sur cette pièce.
C'est ça.
Donc le silence s'est fait et au moment où le silence se fait, on entend la pluie qui ruisselle partout. Et j'ai vu Philippe Bianconi, qui est plutôt discret comme pianiste, extrêmement, c'est très dépouillé ce qu'il fait, même son attitude, vous voyez. Et au moment où il allait placer la première note, j'ai vu un petit sourire en coin parce qu'il entendait l'eau qui tombait.
Ben oui, il entendait lui aussi le déferlement des
éléments.
Des éléments, c'est le cas de le dire. Bon, ensuite, il y a eu les cinq volets des miroirs, un recueil qui a été composé au début des années 1900, 1904-1906. Noctuelle et oiseau triste, magnifique poésie nocturne, alors là, c'était la merveille. Et là, petit à petit, la pluie s'est calmée quand même. Hein. Et il y a eu deux pièces, les deux pièces qu'on entend peut-être plus souvent dans leur orchestration.
Oui, tout à fait.
C'est Une barque sur l'océan et Alborada del Gracioso.
Surtout Alborada del Gracioso.
Voilà, oui. Mais la barque, il a joué la barque.
Ah bah on était sur la barque et sur l'océan.
Ah là 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 là, on était emporté par la houle.
L'océan brillait sous le soleil, oui, tout à fait.
Magnifique, vraiment. Et puis enfin, la vallée des cloches.
Et oui.
Retour des cloches.
Retour aux cloches, oui, non, mais tout ça a été pensé. Hein.
Alors, dans un climat de rêverie, avec mystère et volupté quand même. Hein. Donc, il a été évidemment longuement acclamé.
Tonnerre d'applaudissements.
Ah oui, là,
cascade d'applaudissements pour rester dans notre thématique de l'eau.
Voilà. Et il a accordé deux bis, dont le premier prolongeait un peu l'hommage à Ravel, donc, puisque c'était le mouvement final animé de sa sonatine.
Une très belle sonatine.
Magnifique, évidemment. Et puis, il a terminé par la barcarolle de Chopin, cette
fois. En précisant que Ravel admirait énormément cette œuvre.
Bien sûr, oui. Et donc, c'était Chopin.
Qui est longue, hein, c'est pas un petit bis qui nous a joué.
Ah non, c'est vraiment consistant. Belle soirée, à la fois intense et lumineuse.
Alors je disais, voilà pourquoi il y avait la filiation, parce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, les pères du piano romantique français du 19e siècle, bah, c'est Liszt et Chopin.
Ben oui.
Et donc derrière, il y a toute la filiation qui va de Saint-Saëns à Ravel, donc en passant par Fauré, qui fut l'élève de Saint-Saëns et le maître de Ravel.
Oui,
quand je disais
formidable.
Que tout ça a été pensé de façon
extrêmement
très bien construit, logique, c'était admirable de bout en bout. On va réécouter ce merveilleux musicien qui est Philippe Bianconi. J'ai choisi la pièce qui, d'une certaine manière, résumait tout le programme qu'il a joué vendredi dernier alors qu'il pleuvait à verse sur le cloître. « Jeu d'eau », extrait de « Miroir » de Maurice Ravel. Jeu d'eau, extrait de Miroir de Maurice Ravel et extrait de l'enregistrement de l'intégrale Ravel qu'a fait paraître Philippe Bianconi en 2023 sous le label La Dolce Vita. Nous allons rester dans la période bénie que fut la fin du 19e et le début du 20e siècle pour la musique française avec un contemporain de Maurice Ravel, Déodat de Sévrac. Samedi soir au château de Saint-Félix-Lauragais, le village natal du compositeur, avait lieu le dernier concert du festival qui porte son nom. Dernier concert pour la partie se déroulant l'été dans divers lieux du Lauragais, sachant qu'il y a aussi une partie automnale qui se tient, elle, à Toulouse. Pour cette soirée de clôture, trois pianistes se sont succédés pour jouer du Sévrac et uniquement du Sévrac, histoire de rappeler à quel point son œuvre pour piano est belle. Il me revient la phrase fameuse de Claude Debussy, pourtant avare en compliments lorsqu'il s'agissait de ses contemporains, « Sévrac fait de la musique qui sent bon et l'on y respire à plein cœur ». Trois pianistes ont donc successivement interprété un programme qui a commencé avec les pièces « Stances à Madame de Pompadour » et « Baigneuse au soleil » jouées par Louis Guérin-Lescope. Ensuite, Liliana Cotuneanu, une de vos compatriotes d'ailleurs, Clara, a joliment interprété « Sous les lauriers roses ». Vous remarquerez que Sévrac donnait toujours des titres très évocateurs et poétiques à ses œuvres. Et puis Delphine Bardin a joué la superbe suite en Languedoc pour conclure ce concert. Très belle interprétation par une pianiste méconnue du grand public, mais très talentueuse, qui fut tout de même lauréate du prestigieux prix Clara Askill en 1997, excusez du peu, et qui a fait paraître l'an dernier un CD Chabrier-Sévrac, où l'on trouve entre autres la suite en Languedoc. Ce concert était organisé autour d'un événement bien particulier, puisque la pianiste et pédagogue Françoise Tina présidait la soirée, soirée à l'issue de laquelle elle a reçu la médaille de la ville de Saint-Félix-Lauragais des mains du maire de la commune, un honneur qui n'avait été fait jusqu'alors qu'à Aldo Ciccolini et Sévrac lui-même. Françoise Tina a enseigné au Conservatoire de Toulouse dans la première moitié des années 80. Grande admiratrice et interprète passionnée de la musique de Sévrac, elle avait organisé à cette époque la manifestation Piano chez Déodat Sévrac à Saint-Félix. Il paraît qu'il y avait des pianos et des concerts un peu partout dans le village. Elle a fondé par la suite en 1989 le Concours international de piano d'Orléans, sa ville d'origine. Étonnant personnage et forte personnalité, enseignante qui a formé ou conseillé des générations de pianistes, dont les trois qui se sont produits samedi soir au château. Songez qu'elle a connu et fréquenté, rendez-vous compte, des figures de légende telles qu'Alfred Cortot, Yvonne Lefébure, Henri Dutilleux, Yvonne Loriot, Jean Baraquet, bref, tout un monde lointain et de plus en plus lointain, pour reprendre le titre d'une œuvre célèbre de Dutilleux. Alors je crois, Serge Chauzy, que vous avez quelques souvenirs de Françoise Tina en concert, vous,
oui,
à cette époque. Là,
en effet, il y a plus de 40 ans. Les années 80, elle a joué à la Halle aux Gringes. Alors j'avoue que je ne me souviens pas des œuvres qu'elle a interprétées, mais je crois qu'elle a même joué avec l'orchestre du Capitole.
Oui, elle a joué effectivement sous la direction de Michel Plasson, voilà, avec l'orchestre du Capitole à l'époque. Sans doute des concertos pour piano, probablement de musique française, je ne sais pas quel compositeur, mais comme c'est vraiment sa grande spécialité. Alors vous, Clara, vous la connaissez aussi, Françoise Tina.
Oui, oui.
Vous qui n'êtes pas pianiste, mais bon.
Oui, mais j'ai eu le grand plaisir de la rencontrer et puis je l'ai vue plusieurs fois, toujours en compagnie de mon époux Thierry Huyer, qui est pianiste et compositeur. Et il l'a connue même à l'époque quand elle était à Toulouse, bien sûr.
Oui, parce qu'il
était
étudiant au conservatoire à
l'époque
où elle
était professeure.
Oui, ce n'était
pas son étudiant, mais à cette époque, quand elle était à Toulouse, Thierry, comme il est entré au conservatoire de Paris très jeune, en 1940, 80.
Ah oui,
il n'était
était
plus
déjà
à Toulouse,
Paris.
Mais
oui,
il la connaissait, bien sûr. Oui. C'est une très grande dame du piano et de la musique. Et ce qui m'a impressionné énormément... D'ailleurs, Thierry a gagné un prix de la meilleure œuvre contemporaine au concours Piano 20e siècle que Madame Tina a fondé à Orléans. Et c'est un prix très, très surprenant. Donc, l'œuvre est choisie parmi des nombreuses œuvres, le choix des candidats. Au premier tour, donc finalement, c'est un concours incroyable et choisi comme ça, en concert. C'était un grand honneur pour Thierry d'avoir ce prix. Et Madame Tina m'avait toujours impressionnée parce que c'est une dame qui a une énergie extraordinaire. Elle émane de sa personne,
ah oui,
de son regard,
confirme,
de sa tenue corporelle, une énergie. Cette énergie des bâtisseurs, si vous voulez.
Oui.
Il y a des gens qui n'ont pas cette énergie-là. Ce n'est pas une critique, on l'a ou on ne l'a pas, mais elle est très, très rare. Elle m'avait fait très forte impression et je suis très honorée d'avoir partagé des moments à s'accompagner et échanger sur la musique.
Et bien moi qui ne la connaissais pas, je l'ai rencontrée samedi à Saint-Félix-Lauragais. J'ai eu exactement la même impression que vous. On voit tout de suite l'énergie qui émane de cette dame et la force aussi. Hein. Il y a quelque
Absolument.
Chose, une force qui émane de cette personne. Elle aura 90 ans le 8 novembre. Elle joue toujours et elle fait toujours des jurys de concours internationaux un peu partout dans le monde, je crois. Elle va en Corée assez souvent. Personnage étonnant auquel je tenais à rendre hommage d'ailleurs en passant. Avant de terminer cette première partie d'émission, je voudrais vous faire écouter du Sévrac sous les doigts inspirés de l'excellente Delphine Bardin qui joue ici Le jour de foire au Mas, cinquième pièce de la suite en Languedoc. Thank you. Le jour de foire aux masses, extrait de la suite en Languedoc de Déodat Sévrac et extrait du CD Chabrier Sévrac, enregistré l'an dernier par Delphine Bardin. Voilà pour ce retour sur les concerts récents, fin de cette première partie d'émission. Une courte virgule musicale et l'on se retrouve avec Serge Chosy et Clara Tchernat, notre invité d'honneur pour la rubrique Agenda de cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy et avec notre invitée d'honneur, la violoniste Clara Tchernat. Vous êtes donc avec votre mari Thierry Huillet, les co-directeurs artistiques d'un festival dont la première édition a lieu du 27 au 29 septembre à Saint-Pierre-de-Trivisy dans le Tarn, c'est dans le Cidobre donc. Ce festival a un nom pour le moins inattendu, surtout pour un festival de musique classique, Petit Haricot. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications ?
Mais c'est un très beau nom.
Ce qui est sûr, c'est qu'on le remarque.
Ça, absolument, on le remarque et c'est un nom très touchant. Moi, il m'évoque beaucoup de choses. Ouais, c'est presque une graine qu'on sème.
C'est vrai, ça évoque la germination.
Voilà. Germination et une graine, voilà, dans le Cidobre. Une graine de beauté, une graine de tendresse et une graine philanthropique aussi, parce que le festival a été bâti autour de la fondation. Le Petit Haricot.
Voilà, c'est pour ça que en fait, ce festival porte ce nom.
Voilà, absolument, parce que le but, c'est de soutenir cette toute jeune fondation qui est à Saint-Pierre-de-Trévisy, qui a le siège, et il y a même un bureau juste à côté de l'église, sur la rue principale, qui est magnifique, elle est toute en pierre. Et ce qui m'a impressionnée lorsque j'ai fait une première visite du village, il y a un voyage instantané au Moyen-Âge, car chaque maison a un fer forgé, sculpté, le métier de la personne qui l'habite ou qui l'habitait. Il y a un croisement des temps là qui est très intéressant à Saint-Pierre-de-Trévisy. Et l'église, elle est magnifique. Elle est absolument somptueuse avec une très belle acoustique. Elle a été restaurée complètement de A à Z, avec des lambris sur le côté, étudiée acoustiquement. L'abbé Jean-Claude Ferré, qui prêche dans cette église, c'est un homme très cultivé. Et j'ai eu une discussion téléphonique avec lui, car le concert de dimanche, la clôture, elle est pendant la messe et je voulais avoir ses souhaits musicaux. Et là, je rencontre une personne qui me parle, vous savez, on parle beaucoup de forêt, bien sûr, s'il y aurait de forêt, évidemment, pourquoi pas, mais on en parle moins, c'est l'année Bruckner. Regardez, aujourd'hui, le 4 septembre, c'est l'anniversaire de Bruckner.
Alors, savoir moi, ça. Hein.
Absolument. Donc, je l'ai appelé le 4 septembre. Je remercie Dieu de l'avoir appelé parce que j'avais aucune idée que le 4 septembre est né Bruckner. Et là, l'abbé Ferré me dit, mais vous savez, si l'organiste accepterait, il y a beaucoup de préludes de Bruckner qui sont très beaux. Bon, enrichi de cette conversation téléphonique, ce qui est beau dans la musique, même si j'y suis depuis l'âge de 5 ans, j'apprends toujours des choses. Alors, j'ai étoffé ma culture et on a choisi pour la messe solennelle du 29 en clôture des préludes de Bruckner, une transcription pour orgue d'Après un rêve de forêt. Il y aura bien sûr la méditation de Thaïs, où je jouerai avec orgue. Et il y aura des œuvres sacrées extraordinaires pour deux violons de Vivaldi. Très peu connu, des œuvres qu'il y a quatre sonates qu'il a écrites à l'âge de 25 ans pour jouer avec son père, qui était barbier et violoniste, le père de Vivaldi. Et on sent l'amour et cette filiation, mais réelle, charnelle, comment dire, physique entre le père et le fils, dans ces sonates. Et j'ai pensé, Vivaldi qui était prêtre aussi, que ça compléterait cette... Et ça finit bien sûr par Jean-Sébastien Bach, un prélude et fugue en do majeur, qui est la tonalité du prélude de Bruckner, qui ouvre cette messe solennelle. Donc, j'ai beaucoup parlé de ce dernier concert du festival.
On va parler des deux premiers. Alors, je vais faire juste une précision concernant cette fondation Petit Haricot, qui œuvre pour la création d'une maison d'accueil pour les femmes victimes de violences et d'exclusion. Et en fait, ce festival a été créé pour récolter des fonds destinés à cette cause.
Tout à fait. Et nous sommes pleinement dans cette démarche parce que je trouve que cette maison d'accueil a une raison forte d'exister. L'implanter sur un territoire comme Saint-Pierre-de-Trévisy, c'est magnifique, c'est à la lisière, à l'orée de la forêt.
Et oui, c'est entre les monts de la Côte et le Cidobre.
Absolument, c'est génial, c'est très tranquille, magnifique. Le sénateur Philippe Folliot, qui est à l'initiative de ce projet et qui nous fait le grand plaisir et l'honneur de nous solliciter pour s'occuper de la programmation artistique, a été longtemps maire de Saint-Pierre de Trévisy. C'est un homme qui a le terroir dans son sang, dans son ADN, on peut dire. Lorsqu'il a été élu, il était premier maire de France, le plus jeune maire de France. Après, il a été député, sénateur. Mais je trouve que c'est un magnifique projet qui va accueillir au début entre 7 et 8 femmes. Seules, victimes de violences, bien sûr, seules ou accompagnées par leurs enfants. C'est en train de se mettre en place. C'est un projet magnifique. Je voulais également remercier les mécènes, dont je citerai Mme Jingling Liu, une mécène chinoise, une femme d'affaires chinoise avec un cœur en or. Et donc,
qui a participé à la rénovation de l'église,
absolument.
Justement.
Donc, Mme Jingling Liu, qui est pianiste, qui adore l'opéra aussi, a participé à cette, comment vous dire, c'est pas une renaissance, Saint-Pierre de Trévisy a toujours existé, mais je pense que par un projet comme ça, on lui donne des vibrations à ce village.
C'est un projet qui a beaucoup de
sens. Qui est magnifique, ouais, et oui. Bien sûr, l'église, elle est splendide, il y aura même un concert de carillon.
Voilà, tous les concerts ont lieu dans l'église.
Bien sûr, tous les concerts. Je voudrais remercier aussi au Piano d'Occitanie, qui est mécène de ce festival. Ils sont à Réalmont.
Donc, ils mettent les pianos à disposition.
Voilà, ouais. Samuel Lefebvre et Piano d'Occitanie, qui sont mécènes du festival. Et c'est très important, parce que commencer le festival avec un piano Steinway D de la dernière génération, c'est la classe absolue,
oui,
je
oui,
pourrais
oui.
dire.
Le son va être magnifique.
Et il y a beaucoup de gens de bien qui se sont fédérés pour que ça soit une réussite.
Au service de ce projet magnifique, donc tous les concerts auront lieu dans l'église. Quels sont les musiciens qui vont se produire pendant ces 3 jours? Donc, bien sûr, il y a vous-même et Thierry Huillet, mais il y en a 2 autres.
Oui, donc nous ouvrirons le festival déjà par un concert aux écoles. Qui
à 14h30, pas... le vendredi 27.
Voilà, hein. Vendredi 27, à l'église.
Concert gratuit,
concert
pour
gratuit
les scolaires.
Pour les scolaires et les résidents de l'EHPAD, parce qu'il y a un EHPAD à Saint-Pierre-de-Trévisy. Et après, le soir, à 20h30, il y aura un concert intitulé « La musique de la terre ». Dans lequel...
Alors, il y a une thématique à chaque concert. Hein.
Absolument, absolument. « La musique de la terre », je serai au violon et Thierry Huillet sera au piano. C'est un voyage autour du monde, comme on en a fait beaucoup. Thierry m'a consacré 4 rhapsodies roumaines. On ne va pas toutes les jouer, on ne jouera que 2. Mais c'est un concert rhapsodie. Rhapsodie, savez-vous, ça veut dire « couture de chant » en grec. C'est très intéressant parce que notre prochain concert est à Athènes. On joue le Petit Prince de mon mari, là, le 21 septembre, et à Athènes. Et je m'intéresse au grec ancien, grec moderne. Je suis fascinée un peu par cette culture, non ? D'où on sort tous, peut-être.
Oui, alors en Europe,
grec,
effectivement, on
latin,
voit beaucoup
voilà.
La culture latine et avant voilà. La culture grecque. Ça,
voilà, on s'est dit, un concert de rhapsodie, une couture de chant, il faut coudre des chants du monde entier. Donc, on aura...
Alors,
George Gershwin.
Oui, alors je voudrais qu'on écoute justement d'abord une des premières œuvres qui est au programme, c'est la première, hein, de ce concert du 27 septembre, Rhapsody in Blue de George Gershwin, dans la transcription pour violon et piano qu'en a fait Thierry Huillet.
Thank you.
Le début de Rhapsody in Blue de George Gershwin, transcrit pour violon et piano par Thierry Huillet, et ça fonctionne très bien, joué par Clara Tchernat et Thierry Huillet lui-même. C'est donc une des œuvres au programme de votre premier concert, vendredi 27 septembre à 20h30, programme intitulé La musique de la Terre. Donc les autres œuvres, qu'est-ce qu'on va entendre ?
On va entendre la première française de la Rhapsodie péruvienne de Thierry Huillet, qu'on vient de créer le 14 août dernier, commande de la Société Philharmonique de Lima pour ses 117 ans d'existence. Et c'est une rhapsodie évidemment fantasque et fantastique, comme la musique péruvienne. Après, il y a deux rhapsodies roumaines qu'il m'a consacrées, de rhapsodie roumaine.
En hommage à votre pays natal, bien sûr.
Bien sûr. Et il y a aussi la fameuse Csárdás de Monti, qui est un hommage à la musique hongroise faite par un compositeur italien, et Vittorio Monti, non, qui a fait grande, grande carrière à Paris. Voilà, c'est un programme très, 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 très haut en couleur. Il y aura aussi une surprise chinoise. J'en dirai pas plus, mais c'est une œuvre extrêmement emblématique pour la Chine, et on la jouera dans sa version violon et piano.
C'est un arrangement aussi de Thierry Huillet d'une œuvre préexistante.
Non, pas du tout. En fait, c'est une œuvre pour violon et orchestre. On l'a fait en version violon piano, juste un tableau de cette œuvre qui elle-même est une grande rhapsodie et chinoise qui traverse et les siècles et des différentes régions.
Alors, vous vouliez dire un mot sur la bibliothèque de Saint-Pierre de Trévisy, parce que c'est un lieu apparemment extraordinaire.
C'est un lieu vraiment à visiter, parce que c'est plus qu'une bibliothèque. C'est un espace de rêverie. En même temps, c'est un restaurant accueillant, splendide, avec la tranquillité, avec des tables, avec des fauteuils confortables, tout en cuir. Mais les tables de ce restaurant sont entourées entièrement des livres, des étagères énormes de livres. Il y a aussi des canapés où on peut se poser, boire quelque chose tout en lisant. Il y a un piano droit qui est entretenu, régulièrement accordé. Il y a aussi une édition, je crois, qui s'appelle la bibliothèque, une édition de livres liée à cet espace qui fait aussi chambre d'hôte. Ils ont au-dessus des studios à louer, on trouve ce booking partout. Donc c'est un espace où on peut s'évader. Et pour y avoir mangé le magret de canard, c'est un des meilleurs que j'ai mangé dans ma vie. Bon, c'est très simple.
Vous pouvez pas
simple,
attirer mieux les gens qui nous écoutent qu'en parlant du magret de canard.
Oui, parce qu'on vient voir un concert, mais on se demande à part ça. Bon, il y a aussi un sauna qu'on peut réserver par famille. C'est un géant sauna privé. Alors, c'est mini sauna à l'échelle d'un parc aquatique qui existe, mais c'est un géant sauna familial.
Tout ça dans un petit village de 600 habitants.
Oui, hein. Et il y a aussi un musée. Un musée avec des animaux empaillés, avec l'histoire de la forêt et tout ça que les enfants peuvent découvrir. Voilà, c'est très, très beau et je pense qu'on ne s'ennuie absolument pas.
Non, mais en plus, voilà. La nature est superbe autour. Ah, hein, c'est dans une région superbe. Hein. Bon, on va écouter une autre des pièces au programme du concert du 27 septembre, la fameuse Csárdás de Vittorio Monti, qu'on écoute maintenant dans la version de Clara Tchernat et Thierry Huillet. Thank you. Lac Chardas de Vittorio Monti dans la version de Clara Tchernat et Thierry Huillet, pièce au programme de votre concert du vendredi 27 septembre à 20h30. Le samedi 28, toujours à 20h30, vous présentez un programme intitulé cette fois-ci « Maîtres et disciples » autour du boléro de Ravel. Qui sont les maîtres et les disciples dans cette histoire ?
Bah écoutez, modestement, les maîtres sont moi et Thierry, et nos disciples, Géraldine Zimmermann et Aloïs Coste.
Bah, c'est les maîtres et les élèves, hein.
Absolument,
voilà, c'est logique d'appeler ça comme
bien
ça.
Sûr. Hein. Et ce sont deux jeunes très talentueux. Géraldine Zimmermann, elle est péruvienne, franco-péruvienne. Je l'ai rencontrée avec Thierry Huillet, ça fait bien longtemps, ça fait 7 ans, lors d'un premier concert que j'ai fait à Arequipa, dans sa ville, la ville de Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature.
Grand écrivain, oui.
Bien sûr. Deuxième ville de Pérou, ville coloniale splendide. Et suite à cette rencontre, Géraldine est venue travailler au Conservatoire national de région de Toulouse avec moi pendant de nombreuses années, le violon, et je l'ai mise à l'alto. Car l'alto, comme vous le savez, c'est mon deuxième instrument et ma passion. Et elle a réussi un exploit assez unique dans l'histoire du Conservatoire de Toulouse, c'est que la même année, elle a obtenu...
Le prix de violon et le prix d'alto. Voilà,
et le prix de violon, première nommée sur 15 candidats, excellence absolue, sobresaliente, comme on dit en espagnol, et à l'alto, quand même, avec mention, très bien. Ce qui est quand même une semaine après, donc Géraldine. Absolument. Et Aloïs Coste, c'est un disciple de Thierry Huillet, il est originaire de la région, il est de Muret. Et avant d'être élève de Thierry Huillet, il a travaillé à Pamiers avec une disciple de Thierry Huillet, Jeanne Villa, qui fait un travail incroyable au Conservatoire de Pamiers. Et il est entré au Conservatoire de Toulouse avec seulement peut-être 4 ans de piano, ou 2 ans, et 4 ans d'orgue. Mais c'est un garçon qui, en 4 ans, il a eu ses prix d'orgue et de piano, brillamment. Et donc, ce sont des musiciens exceptionnels, avec des capacités exceptionnelles, parce qu'à Toulouse, lui, il a obtenu le prix d'orgue et de piano. Lui aussi, pas la même année, mais c'est quand même une épreuve. Là, ils sont tous les deux étudiants aux Hautes Écoles de Musique de Genève et de Lausanne. Géraldine, elle est à Genève.
C'est pas mal.
Aloïs, elle est à Lausanne. Et on a fondé ensemble, à Arequipa, au Pérou, The Arequipa Music Festival, qui a eu la première édition cette année, début août, qui était un grand succès.
Encore
vraiment
un nouveau festival.
Extraordinaire, mais au bout du monde, vous voyez, c'est
quand même
incroyable.
C'est formidable, hein,
c'est formidable. Voilà. Et le programme était réellement maître et disciple, parce qu'on avait eu Forêt, qui était professeur de Ravel et de Georges Enesco. Dans un des programmes de ce festival à Arequipa et à Lima, il y avait maître et disciple sur scène, mais aussi dans le programme. Mais c'est vrai qu'à Saint-Pierre de Trévisy, pour revenir au concert de 28 septembre à 8h30, il n'y a que sur scène cette filiation, parce qu'il y a deux œuvres de Ravel. On célèbre, vous disiez Serge tout à l'heure, l'année prochaine, c'est l'année Ravel.
Oui, c'est les 150 ans de naissance de Ravel,
voilà,
en 2025.
À Cibourg, 1875. Mais nous, on le célèbre avant l'heure, parce qu'on aime être...
Il faut le célébrer tous les ans, Ravel. Hein.
Absolument. Donc, il y aura deux œuvres magistrales de Ravel. La suite... Ma mère Loi, à laquelle Thierry Huillet a ajouté un violon très rêveur, complètement planant, absolument très beau. Et la partie piano à quatre mains, il a gardé la partie de Maurice Ravel. Pour le boléro, qui conclura le concert, il a préféré faire sa propre version de piano à quatre mains avec deux violons. Et c'est une œuvre spectaculaire. On l'a déjà jouée avec Géraldine Zimmermann et Aloïs Coste. Le public est complètement électrisé. Il y a aussi une version de la danse macabre de Saint-Saëns que Thierry Huillet lui-même a adaptée pour piano à quatre mains et violon. Nous, on joue très souvent avec Thierry la version
on va l'écouter, d'ailleurs.
Célèbre pour piano
et violon.
Voilà. Et donc,
Il y aura Shostakovich, cinq
pièces.
Ah
oui, une merveille. C'est vrai, délicieux. Vous avez le programme sous les yeux, c'est vrai que moi, ma mémoire de temps en temps. Oui, c'est une œuvre délicieuse de Shostakovich qui est une transcription approuvée par lui. Je crois qu'à la base, c'est une œuvre pour clavecin ou quelque chose d'assez spécial. Voilà, ce sont cinq pièces de salon où les deux violons dialoguent tendrement. Elles sont un peu virtuoses, mais surtout rêveuses, parce que la valse ou... Voilà, il y a des titres très évocateurs.
Et puis, il y aura une pièce de Thierry Huillet lui-même. Parce qu'il ne se contente pas de faire des arrangements, Thierry Huillet, c'est un compositeur. Pièce qui a pour titre Tongli, jeu de brume pour deux violons et piano.
Voilà, ça sera la création mondiale. Et c'est une œuvre, personnellement, je crois qu'elle est très belle. Moi, j'ai travaillé comme ma partie. Évidemment, Géraldine va me rejoindre avant le concert. Je vais voir l'autre partie avec le piano. Voilà, il y a la création de cette œuvre Tonglige de Brume pour donc piano et deux violons.
On va avoir un aperçu du programme du concert du 28 septembre, mais ce n'est pas la transcription pour violon et piano à quatre mains que Thierry Huy a réalisée. C'est la danse macabre de Saint-Saëns, jouée par vous-même et Thierry, donc violon et piano. La danse macabre de Camille Saint-Saëns dans la version pour violon et piano, jouée ici par Thierry Huillet et Clara Tchernat. Le dimanche 29 septembre à 11h, Clara, vous l'avez déjà dit, hein, vous allez accompagner une messe solennelle avec l'organiste Aloïs Coste à l'église du village. Vous avez évoqué le programme « On va pas y revenir », mais donc c'est aussi une très belle occasion d'assister à une messe avec deux magnifiques musiciens pour l'accompagner. Voilà donc pour la programmation du festival Petit Haricot du 27 au 29 septembre à Saint-Pierre-de-Trivisy dans le Tarn. Serge, avant de conclure cette émission, un petit rappel rapide sur les concerts du festival Piano Jacobin cette semaine et encore de très belles choses.
Ah oui, oui, oui. Il y a un récital mardi, donc, 10 septembre, de Christian Zacharias. Bon, grand musicien devant l'éternel, on peut dire. Et puis le mercredi 11, un récital également d'un jeune pianiste japonais, Mao Fujita. Ensuite, le 12 septembre, alors c'est la Benjamin des pianistes qui se produit cette année, Ariel Beck. Elle a 15 ans et donc elle donnera aussi des œuvres de Haydn, Brahms, Chopin, etc. Et puis le vendredi 13 septembre, un autre récital de Nathaël Gouin, que l'on connaît bien à Toulouse.
C'est le Toulousain.
Bah oui, qui jouera du Bizet, Gounod Bizet, Saint-Saëns Bizet et Chopin.
Programme très original.
Et un programme soutenu par le Palazzetto Bruzane, évidemment. Qui
promeut la musique romantique française.
La musique romantique française.
Vous voyez, maître et disciple, Nathanaël Gouin a eu le prix de piano dans la classe de Thierry Huy.
Mais oui, je sais que c'est un ancien
élève de Thierry. Je me rappelle beaucoup de lui quand il était jeune et merveilleux.
C'est un merveilleux pianiste.
Oui, il fait une belle carrière, Nathanaël Gouin. Et puis enfin, le 17 septembre, mardi prochain, à 20h, il y aura un rendez-vous avec l'Ukrainien Vadim Kodolenko, qui jouera un programme là aussi étonnant, William Byrd, Kaya Sarriaho, compositrice finlandaise morte l'an dernier, Beethoven et Chopin. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Avant de rendre l'antenne, je rappelle que la première édition du festival Petit Haricot se tient du 27 au 29 septembre à Saint-Pierre-du-Trivisy, village du Tarn situé entre les monts de la Caune et le Cidobre. Concert les vendredis 27 et samedi 28 à 20h30, donné par Clara Tchernat et Thierry Huillet. co-directeur artistique de la manifestation, avec également la violoniste Géraldine Zimmermann et le pianiste et organiste Aloïs Coste. La billetterie est en ligne sur le site www.helloasso.com. Vous pouvez aussi envoyer un mail à l'adresse festival@petitharicot.fr. D'autre part, la 45e édition du Festival Piano Jacobin se poursuit jusqu'au 30 septembre à Toulouse. Je vous invite donc à consulter le site web du festival pour avoir tous les détails de la programmation, pour vous renseigner et réserver et acheter vos places en ligne à l'adresse www.pianojacobin.com. Merci à Serge Chosy d'avoir co-animé cette émission à mes côtés et merci à Clara Tchernat d'en avoir été l'invitée d'honneur. Tous mes remerciements aussi à Christophe Aubry, le réalisateur de ce numéro. Le podcast est téléchargeable, comme d'habitude, dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à vous tous qui nous écoutez chaque mardi et mercredi. Excellente semaine musicale à tous.